Bonsoir, trois thèmes sont retenus pour l'émission de la presse de ce soir, à savoir les points de presse tenus hier jeudi par les porte-parole du gouvernement, le ministre Lambert Mende. Ensuite, dans une déclaration faite lundi dernier, le MSP accuse de l'alliance de la majorité présidentielle de déstabiliser les institutions provinciales de l'Équateur. Et enfin, les femmes ont célébré le 8 mars dernier la Journée internationale de la femme, dont le thème national est le progrès pour tous, parité homme-femme dans un Congo cinquantenaire. Trois journalistes participent à ce débat. Il s'agit de Marcel Ngoï, il est éditeur du quotidien La Prospérité, c'est un journal qui paraît à Kinshasa. Jusqu'à Koussema, il est rédacteur en chef par la télévision digitale Congo, une télévision qui est née depuis Kinshasa. Et Crispin Malula, il est directeur coordonnateur des canaux Congo Télévision et Radio Liberté à Bumba, à l'Équateur. Lambert Mende parle de la Monique, le MSP accuse l'ANP de déstabiliser l'Équateur ainsi que la Journée internationale de la femme. Quels sont les thèmes retenus pour le débat de ce soir? Comment la presse quinoise a traité ces thèmes? Suivons cette revue de presse que nous présente Samuel Kachak.
Bonsoir. Le point de presse du ministre de la Communication et Médias, Lambert Mende, a fait la une des journaux Paris cette semaine à Kinshasa. Le quotidien La Prospérité précise que de juin 2010 à juin 2011, la Monique est invitée à faire ses valises. Lambert Mende affirme que le gouvernement de la République démocratique du Congo n'entend pas faire un jeu de ping-pong avec la mission des Nations Unies au Congo quant au retrait de ses troupes. À ce sujet, l'avenir fait savoir que l'heure est à la reconfiguration et au retrait progressif de la Monique. Sur un autre registre, le potentiel signal que le MSC accuse l'AMP de déstabiliser l'Équateur. De son côté, la plateforme de la majorité présidentielle réfute toutes les accusations en estimant qu'elle n'a pas la majorité à l'Assemblée provinciale, ce qui oblige l'observateur à qualifier l'opposition congolaise d'opposition de pacotille. Enfin, terminons cette revue de la presse avec la Journée internationale de la femme, célébrée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Le potentiel rapporte que les femmes congolaises se sont massivement mobilisées en manifestant leur appropriation de cette journée et leur détermination à s'impliquer dans la marche harmonieuse du pays. Le palmarès fait savoir que cette journée est en passe de devenir celle réservée au pagne. Pour Uhuru, la célébration de cette journée de la femme est une véritable démonstration de l'unité des femmes congolaises.
Merci Samuel Kachak pour cette revue de presse. Un petit commentaire, Marcel Ngoï, vous êtes éditeur du quotidien La Prospérité, c'est un journal qui paraît à Kinshasa. Et comment vous appréciez le travail de la presse quinoise de cette semaine?
C'est un travail important qui est abattu. Vous savez que la presse, c'est elle qui nous aide à avoir un peu une sorte de verre réverbère dans lequel la société doit se regarder. Mais seulement, il faut ajouter à ces sujets qui ont été évoqués, cette lettre qui a fait flèche de tout bois, la lettre adressée au président de la République au sujet des élections, au sujet du calendrier précis pour les échéances à venir, un sujet que je n'ai pas entendu évoquer dans cette revue de presse. Il y a énormément de petits sujets comme ça, notamment ces embouteillages monstres sur le boulevard, tout ça, qui sont aussi des sujets d'actualité, dans le sens qu'on doit de temps en temps en parler pour rappeler l'autorité publique un peu à l'ordre. Donc nous devons aller au-delà du journalisme seulement d'investigation et de dossiers importants, on doit aller aussi vers le journalisme de proximité pour parler de cette société.
Oui, Jutta Foussema, vous êtes rédacteur en chef pour la télévision digitale Congo Kinshasa. Vous pensez que tout a été dit dans la presse quinoise, à part la lettre qui a été adressée sur l'état au sujet des élections et les problèmes des embouteillages? Vous pensez-vous que rien n'a échappé à la presse quinoise?
Merci tout d'abord de m'inviter à ce plateau de la presse, de tribune de la presse. Je salue également tous les auditeurs de Radio Papi. Alors, il est difficile de faire une appréciation sur le travail de confrères. Il est vrai que je partage l'inquiétude de Marcel de tout à l'heure, de dire que nous courons souvent derrière les déclarations, derrière les événements, mais nous n'en créons pas nous-mêmes à travers le réflexe du travail d'investigation. Et donc, il est vrai que ce sont ces sujets qui ont fait l'actualité, mais il y en a eu d'autres également, comme cette lettre du chef de l'État. J'espère qu'au cours de l'émission de la semaine prochaine, nous allons y revenir.
Christian Malula, vous êtes directeur coordonnateur des canaux Congo Télévision et Radio Liberté à Bumba, à l'Équateur. Et quelle est l'actualité qui a dominé dans votre province, la province de l'Équateur, cette semaine?
C'est toujours la même actualité du matin. Il y a eu d'abord la journée internationale de la femme et cette histoire de AMP de vouloir déstabiliser la province de l'Équateur sur le plan institutionnel, telles sont les actualités qui ont pratiquement dominé la province. Je crois que vous avez fait là un travail de titan et c'est vraiment suffisant.
Merci, nous passons à notre premier thème ce soir. Le point de presse tenu hier et jeudi par le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Mer Mendy. Réconfiguration et respect progressif de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, le gouvernement congolais éclaircit l'opinion. La question était au menu de la conférence de presse du ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement hier jeudi à Kinshasa. D'après la Mer Mendy, les consultations se poursuivent entre les deux parties. Évaluant le soutien de la MONUC au cours des 10 dernières années, le ministre de l'Information parle d'un bilan satisfaisant. Quant au retrait progressif des soldats de la paix, le gouvernement attend voir la MONUC concentrer ses éléments vers le nord et le sud Kivu pour terminer ce retrait en 2011. Des précisions avec Mimi Ngumba Mulongo.
Ce retrait va concerner les régions non perturbées du pays. Cette position du gouvernement congolais se fonde sur la nécessité impérieuse de se démarquer du statut d'un état d'exception, a fait savoir le ministre de l'Information. Cependant, la coopération avec les autres agences des Nations Unies reste indispensable, a ajouté Lambert Mende.
Cette ambition des Congolais à redevenir un peuple comme d'autres, à vivre dans un pays normal, est une simple question de dignité humaine. Ceci implique concrètement la rétrocession à l'État de ses missions traditionnelles assumées par diverses technostructures dans le cadre de l'assistance internationale pendant la période d'exception.
Quant à la reconfiguration du mandat de la mission onusienne, le gouvernement voudrait voir la MONUC se concentrer dans les nord et sud Kivu, d'où la demande de transfert de ses unités vers les deux provinces.
Pour le gouvernement, les nouvelles attributions de la mission des Nations Unies au Congo doivent être exclusivement orientées vers le soutien aux efforts de renforcement des capacités organisationnelles, opérationnelles et d'encadrement des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale et des forces de sécurité.
Le ministre de l'Information tient également à souligner qu'il ne s'agit pas là d'une stratégie pour le pouvoir de se débarrasser de la MONUC et pouvoir truquer les élections générales, contrairement à ce que dit une certaine presse.
Juste concrètement, comment réagissez-vous à ces points de presse du ministre Lambert Mendy?
Écoutez, je salue le travail du ministre Lambert Mendy, mais personnellement, c'est une stratégie que je qualifie quelque peu de polémique.
Pourquoi?
Dans la mesure où le ministre devrait plutôt procéder à un travail de vulgarisation, d'explicitation, plutôt qu'un travail d'attaque. Vous rappellerez qu'il y a 10 ans, lorsque les premières troupes de la MONUC sont arrivées, c'était avec un enthousiasme qu'on les a accueillis dans un contexte tout particulier. Alors, j'aurais bien voulu que cet enthousiasme-là accompagne également le départ de la MONUC, plutôt que de jeter un peu les feux avec quelques mots qui frisent un peu des invectives. Je crois que c'est quand même trop fort de la part du ministre. J'aurais bien voulu qu'il soit un peu modéré et qu'il fasse un travail de vulgarisation comme je l'ai dit tantôt. Parce que là, le ministre apparemment s'adresse à une cible que seul lui connaît. Et c'est des attaques qui vont peut-être jeter quelque peu de trouble au sein de l'opinion.
Oui, Marcel Moly, partagez-vous les points de vue de Giscard Koussema qui pense que le ministre devait commencer par un travail de vulgarisation?
Vulgarisation, oui, parce que ça rentre dans les attributions traditionnelles du ministère de la communication, et surtout que c'est lui le porte-parole du gouvernement. Mais il faut éviter de mêler à ce travail national parfois des élans personnels, des velléités irrédentistes qui pourraient pencher vers de propensions purement politiques.
Moi, vous voulez dire quoi par là?
Ce que je veux dire est qu'il faut éviter que, pour des questions de repositionnement personnel, qu'on puisse se livrer à un exercice de végétariat. Je pense que la MONUC est venue ici sur demande du gouvernement congolais.
Vous pensez que le ministre Mendy n'engage que sa propre personne?
Ah, au-delà de ça, je ne vais pas me laisser emporter dans des commentaires sur ce qu'il pense. Mais je pense tout simplement que dans ce qu'il dit, il y a des choses à redire. Je pense qu'un gouvernement responsable devrait commencer par faire l'analyse, l'évaluation de ce que la MONUC a apporté, et en même temps savoir, se souvenir que la MONUC est venue au Congo sur demande du gouvernement congolais, et c'était à l'époque dans un contexte bien précis. Aujourd'hui, 10 ans après, est-ce que le Congo a réuni les conditions pouvant déterminer cette MONUC à quitter le sol congolais? À mon sens, non. Les conditions ne sont pas réunies. Et ce n'est pas pour rien que le ministre parle de la réorganisation, de la configuration, de la reconfiguration du mandat de la MONUC autour du renforcement des capacités organisationnelles. Vous savez que sous l'Empire 1 plus 4, l'une des missions qui avait été assignée à pratiquement au niveau des forces de sécurité de l'armée, c'était pratiquement la formation de l'armée nationale restructurée et intégrée. Mais cette mission n'a jamais été atteinte. Au jour d'aujourd'hui, dans beaucoup de secteurs où la MONUC joue même le rôle d'une force dissuasive. Si la MONUC s'est retirée, alors que la capacité de déploiement de notre armée ne peut pas couvrir l'ensemble du territoire, je vois là un danger qui se profile à l'horizon. Peut-être que le ministre ne mesure pas encore l'enjeu, peut-être qu'aujourd'hui parce qu'il y a une accalmie, mais lorsque Goma voulait tomber, tout récemment, avant que le général Kayembe ne soit transféré en Afrique du Sud pour les soins, Goma devait tomber avec Laurent Kunda qui reprenait et qui récupérait tout un camp militaire. Donc, à ce moment-là, on avait encore une fois de plus besoin de la MONUC. J'ai craint, pour ma part, qu'on puisse précipiter le retrait de la MONUC, retrait d'ailleurs du reste partagé, parce que Alain Leroy, lors de son passage ici, a accepté, a émis le vœu de se retirer. Mais dans quelques années, quitte à définir, à mon sens, le gouvernement congolais devait mettre sur pied un cadre de concertation avec la MONUC pour pouvoir définir un calendrier harmonisé, plutôt que de jouer au diktat et de pouvoir imposer un calendrier en une année comme s'il s'agissait d'un ultimatum.
Dans l'édition de votre journal La Prospérité d'aujourd'hui, vous dites juin 2010 et juin 2011, la MONUC invitée à faire ses valises. Et vous pensez qu'au travers de cette déclaration du ministre Mende, le gouvernement congolais prie la MONUC de quitter, de partir?
Le gouvernement remercie la MONUC. Et c'est pas pour rien que le ministre dit que le travail abattu est un travail de bilan est satisfaisant. Donc, c'est le bilan que le gouvernement fait. Mais moi, je dis que c'est trop tôt de faire ce bilan. Parce que nous avons encore des défis. Les défis aujourd'hui, l'un des défis majeurs, c'est l'organisation des élections. Souvenez-vous, en 2006, sans le concours de la MONUC pour le transport des kits électoraux, notamment pour joindre les coins du pays où les infrastructures routières n'existent plus. C'est la MONUC qui a aidé avec ses hélicoptères, avec ses équipements pour qu'on puisse amener les kits électoraux. Mais en même temps, aujourd'hui, nous avons besoin de cette même MONUC, notamment pour aider à la révision du fichier électoral et même à matérialiser les autres étapes du processus électoral. Donc, je pense que c'est trop tôt de plier la MONUC de pouvoir faire ses valises.
Christophe Malula, votre réaction par rapport à la déclaration du ministre Lambert Mende?
Je suis justement en train de me poser plusieurs questions dans la tête. Et la première est de savoir pourquoi le gouvernement congolais est en train de s'acharner pour le départ de MONUC. Pourquoi il s'acharne tellement? C'est-il quelque chose qui se cache ou le gouvernement n'exprime pas clairement son désir? Je ne voudrais pas particulièrement parler de Lambert Mende, il n'est qu'un porte-parole. Il est en train d'exprimer l'expression de tout un gouvernement. Mais c'est le gouvernement congolais qui avait conclu des accords avec la communauté internationale pour que les hommes de la MONUC soient dans notre pays. Si aujourd'hui, il estime que tout est fait prêt pour que la MONUC soit partie, tant mieux. Mais si on veut faire partie de la MONUC, comme pour dire, le chat est parti, il faut que la souris danse. Bon, moi, je pense que le moment doit être très, très mal indiqué pour plusieurs raisons. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous préparer aux élections générales de 2011, pas plus tard que l'année prochaine. Et les dispositifs sont-ils prêts? Je vais parler comme mon ami. Je sais que dans ma province, par exemple, de l'Équateur, il y a eu des fois où l'équipe ne sont pas arrivée. Et les élections sont arrivées après la proclamation des résultats. On est revenu refaire les élections dans certains coins. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il était plutôt question de bien collaborer, de bien coopérer avec ces institutions internationales qui sont dans notre pays pour harmoniser le système électoral qui arrive en 2011
et pour essayer de remettre l'ordre, notamment la sécurité, dans plusieurs coins du pays. J'ai suivi dans la revue de presse, il a par exemple dit que la Monique doit partir dans de régions qui ne sont pas troublées. Est-ce que vous pouvez me citer une seule province où il y a la paix aujourd'hui, par exemple? À l'Équateur, chez nous, on n'a jamais parlé de la rébellion depuis le début, depuis le commencement du monde. Il n'y a jamais, la rébellion n'a jamais commencé à l'Équateur. Jamais. Mais pour aujourd'hui, vous entendez parler de ce qui s'est passé à Dongo, Inyele, aujourd'hui Matadja, demain on ne sait où. Et puis, à l'Est, ne parlons pas de l'Est, au Katanga, il n'y a pas de rébellion. Peut-être que on estime, vraiment, je ne sais pas, je dis tout simplement que le gouvernement a ses raisons, que la raison ignore.
Merci.
Mais si ces raisons sont nobles, et si ces raisons contribuent au développement harmonieux de notre pays, il y a raison de demander que la Monique parte. Mais si c'est pour les intérêts politiciens, en tout cas, moi, je trouve qu'il n'y a pas de raison pour que la Monique soit partie. Ça serait trop tôt.
Merci. Juste à concernant, en fait, dans l'édition du journal Les Potentiels, le quotidien Les Potentiels d'aujourd'hui, là, le potentiel reprend les propos du ministre Mende et à la une, qui il dit ceci, le retrait de la MONUC et de la RDC n'implique aucune forme de rupture. Donc, ça veut dire que...
Oui, quelque part, ça c'est un titre éditorial. Quelque part, le journal reconnaît qu'il y a eu un message visqué dans ce sens-là. Alors moi, je voudrais ici dire qu'il est faux de croire que sans la MONUC, le pays ne va pas vivre. Le pays va vivre, mais moi, ce que je déplore ici, c'est un peu l'extrémisme de dire que le départ de la MONUC, c'est une restauration de la dignité. J'ai entendu certains mots qui choquent, qui m'ont choqué personnellement. On parle de la technostructure qui partageait un peu certaines prérogatives de l'État. Écoutez, il est vrai aussi qu'il y a beaucoup à dire sur les 10 ans de la MONUC. Tout n'a pas été rose. S'il faut établir le bilan de manière générale, il est mitigé, à mon avis. Il est mitigé. La MONUC a-t-elle atteint sa mission principale, celle de restaurer la paix? Je ne pense pas. Il y a eu beaucoup de ratés à plusieurs reprises. Il a fallu que la population elle-même se prenne en charge. Mais il est également faux de croire que la MONUC n'a rien fait. La MONUC nous a aidés, on l'a dit ici, pour le... À certains moments, la MONUC s'est vue obligée, avec un peu cette poussée de la population, à prendre certaines décisions spectaculaires. On a vu la MONUC sauver plusieurs villes ici. On a vu également la MONUC aider sur le plan logistique la RDC. Et donc, moi, je voudrais plutôt une séparation en douceur. On sait que la MONUC était temporelle. Disons, c'est beaucoup, mais pourquoi alimenter la polémique autour du départ de la MONUC et se lancer dans cette guerre de vocabulaire, réconfiguration, rétro-progressisme? Qu'est-ce que la population... Ce qu'il faut faire plutôt, c'est d'expliquer, comme je l'ai dit tantôt. Il faut expliquer, il faut vulgariser, et il faut faire comprendre à la population qu'il y a dans certains coins la présence de la MONUC rassure un peu la population. Alors, pour cette population-là, il ne faudrait pas qu'on se lance un peu dans cette guerre. Il faut rassurer plutôt que, voilà, nos partenaires sont arrivés, ils partent, mais l'État va reprendre ses prérogatives légaliennes et tout va marcher, voilà.
Marcel Moubenga, pour le gouvernement congolais, les nouvelles attributions de la MONUC doivent être exclusivement orientées vers les soutiens aux forces armées, de la police, les forces de sécurité, ainsi que à la réforme de l'appareil judiciaire. Comment réagissez-vous face à ces vœux, les vœux, les souhaits du gouvernement congolais?
Je rectifie, c'est pas Marcel Moubenga, c'est
Marcel Moïse.
Je dis tout simplement que vous ne pouvez pas, de façon unilatérale, rompre avec la MONUC, rompre une sorte de contrat, une sorte de mariage conclu depuis 10 ans. Vous rompez unilatéralement et vous définissez, vous, dans votre coin, une nouvelle mission que vous assignez aux autres. Nous sommes dans un processus qu'on peut qualifier de partenariat. Et aujourd'hui, nous sommes à l'heure où on parle de partenariat gagnant-gagnant. Et ici, ça ne s'agit pas de business, mais il y a des gens qui sont dans le monde qui est venu pour contribuer à un moment donné à l'avènement de la paix, à la consolidation de la paix. Et cette mission, nous l'avons vue sous l'Empire 1+4, la contribution de la MONUC pour la tenue du dialogue intercollé, la contribution de la MONUC pour la gestion consensuelle de la transition et même la réalisation des élections. Et à des moments particuliers, la MONUC est intervenue à travers le SIAT, à travers toutes les structures qui ont été créées ici pour essayer tant soit peu d'assurer une certaine crédibilité aux institutions en place. Je considère que c'est vrai que ce n'est pas une fatalité aujourd'hui si on dit que la MONUC doit se retirer. Mais j'ai dit tout simplement qu'il s'agissait d'un partenariat, d'une demande du gouvernement qui avait été formulée. Si aujourd'hui les conditions sont réunies pour que la MONUC parte, il n'y a pas d'inconvénient. Mais si les conditions ne sont pas réunies, il ne faudra pas qu'on puisse jouer avec le feu. Vous restez vous-même, vous organisez mal les élections, eh bien ça sera, ça va se retourner contre vous. Parce que je considère que ces élections-là ressemblent à une sorte de, à une flamme. Une flamme qui atteint une brindille. Et la brindille, dès qu'elle prend feu, elle peut brûler toute la forêt. Et je considère que les bonnes élections, si elles sont organisées avec la collaboration, avec l'harmonie, dans des conditions harmonieuses, acceptées par tous les partenaires bi- et multilatéraux, eh bien, nous avons des garanties. Ce que nous pensons est qu'il y a moyen de reconsidérer cette façon, cette vision unilatérale de considérer les partenaires comme étant des caisses de résonance qui doivent justement avaler seulement des positions gouvernementales. Il faut appeler, inviter la MONUC à la table des discussions, mettre les experts de la MONUC et les experts du gouvernement autour d'une table pour définir un calendrier consensuel du retrait. Si le retrait, comme il est partagé, j'ai noté une certaine convergence. Si tu lis mon journal ce matin, il existe ce qu'on appelle la convergence parallèle. La MONUC, oui, la convergence parallèle.
Cela veut dire quoi?
Cela veut dire que le principe du retrait est acquis. Donc, du côté de la mission onusienne, il est acquis qu'il y aura un retrait. Du côté du gouvernement, même. Ce qui reste, c'est de définir les modalités de ce retrait, de façon que ce n'y ait pas une dissension, que ce ne soit pas une sorte de remerciement. On dit, écoutez, vous êtes venus aujourd'hui, c'est comme si c'était des gens dont on se débarrasse comme ça, comme s'ils étaient seulement venus faire les affaires. Donc, je considère qu'il faut un minimum de forme. Donc, il y a un minimum de forme qui manque à la démarche gouvernementale aujourd'hui. Un minimum de forme. Du point de vue diplomatique, du point de vue même politique, il faut que la MONUC, le jour qu'elle se retire, qu'on montre aux populations congolaises que cette MONUC aura servi à quelque chose, qu'elle-même aussi ait la possibilité d'en parler et même de se préparer à partir. Mais alors, ça doit être dessiné autour d'une table, autour des discussions.
Oui, Christian Malouda, la MONUC vient de passer 10 ans en République démocratique du Congo. Et pensez-vous que le moment n'est pas opportun pour son respect?
Je dirais oui comme je dirais non. Quels sont les objectifs pour lesquels la MONUC est arrivée en République démocratique du Congo? C'était pour essayer de rétablir la paix et de remettre... C'était pour essayer de mettre les institutions en place. Si aujourd'hui, on croit qu'il y a des institutions qui ont été démocratiquement installées et qui sont respectées par les peuples congolais, mais je ne dis pas que la paix est restaurée en République démocratique du Congo. Je pense, à mon sens, c'est la MONUC, c'est le témoin direct du système des Nations Unies dans tout le pays.
Merci. Nous passons à notre deuxième thème de ce soir. Dans une déclaration faite lundi dernier, le MLC accuse l'Alliance de la majorité présidentielle de déstabiliser les institutions provinciales de l'Équateur. Message contenu dans une déclaration rendue publique lundi dernier à Kinshasa. Pour illustrer son affirmation, le parti politique de Jean-Pierre Bemba évoque quelques cas. C'est notamment la mise en accusation du président et vice-président de l'Assemblée provinciale, tous membres du MLC. Toujours selon le MLC, l'ANP installe à dessein une instabilité qui bloque toute possibilité de travail parlementaire. D'après Constant Ndonda Ombel, secrétaire général adjoint de ce parti, toutes ces manœuvres ont pour but d'exclure le MLC du contrôle de l'Assemblée provinciale. À cette même occasion, le MLC a exigé la libération du président fédéral de la Tshopo, détenu par l'ANR en province orientale. On écoute Ndonda Ombel au micro de Mimi Ngumba Mulongo.
Et c'est donc au terme de cette enquête qui s'avère qu'il y a négation, qui s'avère qu'il y a détournement, que la plénière de l'Assemblée peut déférer le président ou son vice-président ou tout le bureau en justice. Et nous sommes étonnés. Et non, on s'acharne à les convoquer. Et c'est là que se passe. Bon, l'Assemblée provinciale est en pleine session. Et c'est à ce moment-là que l'on convoque son président et le vice-président. Nous visons donc à perturber le bon fonctionnement de l'Assemblée provinciale. Nous sommes fondés de dire que c'est un complot. Pas parce qu'on n'en a pas fini avec l'Équateur. Maintenant, on s'attaque au haut cadre du parti, notamment le président de la Fédération de la Tshopo dans la province orientale. Là aussi, nous demandons qu'on puisse les libérer vraiment sans délai.
Réagissant à ces accusations, le secrétaire exécutif adjoint de l'Alliance et la majorité présidentielle, Louis Koyadia Lombasete Gelengo, affirme que l'ANP n'est pas concernée ni de près ni de loin par la déstabilisation de l'Assemblée provinciale de l'Équateur. D'après lui, la mise en accusation de ces deux cadres du MLC est une initiative des députés provinciaux. D'ailleurs, ajoute-t-il, l'ANP n'a pas la majorité dans cette institution provinciale de l'Équateur. Jusqu'à Kosema, comment peut-on comprendre les accusations du MLC?
Écoutez, d'abord, moi, je ne partage pas cet avis du MLC. C'est, là encore, c'est un terrain en train de polémique. C'est de la bonne guerre entre l'ANP et le MLC. Mais je voudrais aussi faire constater une chose. C'est que le cas de l'Équateur n'est pas un cas isolé. Vous le savez, depuis un temps, ça bouillonne un peu partout, dans pratiquement l'ensemble des assemblées provinciales. Et le problème est toujours le même, on parle de mégestion, de détournement des deniers publics, et donc, à ce point de vue-là, je peux considérer qu'il s'agit pratiquement d'un mouvement généralisé qui ne vise pas que le MLC. Et je voudrais également dire ici que l'argument donné par le MLC n'est pas forcément faux. Mais il faut ici considérer également le fait que lorsqu'on recourt à la mission traditionnelle, disons à la vocation de toute formation politique, celle qui consiste à conquérir et à conserver le pouvoir, et donc il faut des stratégies pour se faire. Peut-être que le MLC présente aujourd'hui quelques signes de fatigue ou d'usure. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, la cohésion n'existe plus, et donc on assiste à ces genres. Et donc, le mal peut provenir du MLC lui-même, plutôt que de croire qu'il s'agit toujours de l'AMP. Mais si c'est l'AMP, c'est des bonnes guerres, c'est en politique, ce sont des rivalités, ce sont des coups. Le plus important, c'est de savoir faire face à ces soubresauts et se maintenir. Peut-être que de ce côté-là, le MLC n'a pas su tenir bon.
Oui, Marcel Ngoy, pensez-vous comme Giscard Kousséma les accusations du MLC, selon lui, ne seraient pas fondées, que l'on pourrait expliquer cette situation par un mouvement général qui ne vise pas seulement le MLC?
Le problème est un peu plus important que celui-là. Il ne faut pas réduire le débat national à la dimension d'un parti. La vérité, c'est que à travers le pays, quand vous essayez de regarder ce qui s'est passé dernièrement au Maniema, l'Assemblée, l'hémicycle a été transformé en dojo ou bien en ring. Les gens ont fait des démonstrations de force. Ils ont été convoqués à Kinshasa par Lumanu, qui les a entendus. Et puis, il faut prendre des dispositions pour que les activités au niveau de la province du Maniema ne puissent pas être perturbées. Didier Manara a été entendu. Donc, bref, ça, c'est le Maniema. Vous aviez entendu autrefois de la situation qui s'était déroulée à Lubumbashi avec Lungwa Mokumwanza. Là, il y avait 4 députés qui avaient été tabassés par des jeunes qui appartiendraient, entre guillemets, au parti ou à l'une milice à obédience du président de l'Assemblée provinciale. Donc, c'est un peu partout. Tout récemment, c'était à la province orientale avec Aoutia Imedar, où il y a eu des problèmes également. Donc, je considère que l'approche qui fait trembler de colère certaines personnes, c'est que la législature tire à sa fin. Qu'avons-nous eu? Nous avions participé à tel ou tel autre combat politique pour la conquête du pouvoir. Qu'avons-nous fait de nos 5 ans? Quel sera notre tour? C'est ça l'enjeu. Ce n'est pas l'enjeu seulement du MLC. Mais voilà du MLC, justement, parce que c'est le sujet que vous voulez que nous puissions évoquer. Le MLC est en perte de vitesse. Et cette perte de vitesse n'est pas redevable à une famille politique quelconque. Le vrai problème, c'est qu'il y a absence réelle de leadership. Les grands leaders étant neutralisés ou hypnotisés par la Cour pénale internationale. C'est lui le grand bailleur de fonds, c'est lui le cerveau. Le cerveau est quelque part bloqué dans des procédures coûteuses, longues et épuisantes de la Cour pénale internationale.
Et depuis, ceux qui sont restés n'ayant pas, je ne minimise pas les gens, mais je considère que les contradictions internes qui sont devenues majeures aujourd'hui, au point de diviser François Mwamba et Denis Essang, au point de faire sauter certaines personnalités comme des béliers, je considère que ce sont des contradictions normales. Et le parti devait se saisir de ces occasions-là pour pouvoir faire une relecture de sa vie, de son évolution, pour une fois de plus réqualifier ses ambitions par rapport aux futures échéances, qu'on ne puisse pas imputer à d'autres formations politiques ses propres turpitudes, ses propres faiblesses. Je considère que la perte de vitesse du MLC est similaire à celle qui se passe aujourd'hui à l'UDPS, où le leader Maximo tient à faire organiser un premier congrès, alors qu'il y en avait déjà un qui avait été organisé. Pourquoi ne pas mettre tout le monde autour d'une table, par exemple, pour remettre de l'ordre dans la boutique? C'est un peu comme ça. Plus tard, on parlera des uns des autres, des autres partis politiques. Donc, si nous réduisons les débats à des querelles de partis, eh bien, nous allons biaiser la démarche. Nous ne comprendrons peut-être pas pourquoi on est là. Le pays a besoin d'être gouverné. Et pour être gouverné, il y a un pouvoir qui est là, qui construit la majorité, et il y a une opposition. Aujourd'hui, l'opposition est à faune. Ce n'est pas de la responsabilité de la majorité. C'est parce qu'effectivement, tous ceux qui se disent opposants n'ont pas compris qu'il faut construire un véritable leadership.
Merci, Christian Manoula. Quel est votre point de vue? Vous êtes dans la province de l'Équateur. Hein, et Giscard dit que s'il faut parler des accusations, et selon lui, ces accusations ne sont pas fondées. Il faut beaucoup plus comprendre cela comme un mouvement général qui ne vise pas seulement le MSC. Et Marcel Ngoï pense que les problèmes se situent beaucoup plus au sein du MSC. Est-ce que c'est votre point de vue, vous qui êtes sur place de la province de l'Équateur?
Nous sommes en train de vivre la réalité sur terrain ici à l'Équateur. Le problème n'est pas à ce niveau. Et mon collègue Marcel a dit que c'était de la bonne guerre, mais moi je dis que c'est de la sale guerre. Pour autant que le gouvernement a gagné toutes les provinces, à l'exception de l'unique province de l'Équateur, il y a eu de l'argent sale qui a circulé pour que cette unique province qui était acquise à l'MLC soit encore rétrocédée au gouvernement.
Est-ce que vous avez
il y a eu un champ de conscience.
Christian Manoula.
Disons-nous la vérité.
Christian Manoula.
Disons-nous la vérité parce qu'il y a des choses pour lesquelles aujourd'hui les journalistes essaient de mettre de l'eau dans la bouche et qui n'arrivent pas à dire clairement la chose. Le problème de l'Équateur n'est pas un grand problème. C'est que c'était l'unique province de l'opposition. Et on a activé la machine pour ravir cette province. Vous avez suivi, je crois que l'homme d'Ambel l'a déclaré tout à l'heure au micro de Mimi. Il a dit qu'après qu'on ait balayé tous ceux qui occupaient des postes, aujourd'hui on commence à s'attaquer à des individus, à des personnalités, à des cadres du
parti. Merci, Christian. Merci. Marcel Ngoï, vous avez un mot à ajouter?
Un mot juste pour dire que je comprends la difficulté de mon ami Christian. Parce que il est au service du MLC, parce que il est à la tête d'une radio et d'une télévision à Bumba où il se trouve, mais c'est
pour nous. Cela ne veut pas dire qu'il est partisan du MLC.
Non, je sens
qu'il est journaliste.
Il y a une certaine teinture dans son expression et je sens qu'il y a le cœur qui s'y mêle. C'est tout à fait normal parce qu'il ne peut que commencer par presser pour sa propre chapelle. Mais ici, je voudrais rappeler que le problème, c'est d'élever le niveau du débat. Si nous venons ici, c'est pour nous livrer à un exercice qui consiste à construire et non à détruire. Et ce que nous disons ici concerne aussi bien, c'est salutaire pour l'MLC. Il faut que l'MLC, le parti qui a gagné le plus de sièges du côté de l'opposition, puisse apprendre à faire de la critique et de l'autocritique. Et il y va de son intérêt.
Oui, je voulais juste recadrer le débat ici, comme l'a dit Marcel tout à l'heure. Il ne s'agit pas ici pour nous de savoir s'il y a eu de l'argent ou non dans l'élection du gouverneur non MLC qui gouverne. Il est peut-être mieux placé parce qu'il vit sur place pour nous le dire. En tout cas, je n'ai jamais été depuis l'organisation de cette élection et je pense que le débat de ce soir ne tourne pas autour de cette question. Mais ici, nous parlons de principes, du constat. Le constat, il est là et les faits sont avérés. Nous sommes journalistes, les faits sont sacrés, les commentaires sont libres. Les faits, c'est quoi? C'est que ça bouillonne aujourd'hui
au niveau de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, ça bouillonne également au niveau de l'Assemblée provinciale du Maniema, ça bouillonne au sein, même s'il y a eu quelques cérémonies pour essayer un peu de la télévision, mais ça bouillonne encore. Je vous dis que ça bouillonne encore au Katanga, à Kinshasa ici, des motions, les gouverneurs de la province. Et donc, nous généralisons pour dire que ce n'est pas un cas isolé. Alors, le problème, c'est peut-être que Christophe aurait pu nous aider pour nous dire si les griefs à charge du président de l'Assemblée provinciale ne sont pas fondés.
Oui.
Voilà, d'abord, je ne connais pas beaucoup de présidents de l'Assemblée provinciale. Et donc, le problème, c'est celui-là, c'est de nous démontrer que les griefs mis à sa charge ne sont pas fondés. Moi, je constate simplement, en journaliste, que ce sont les mêmes griefs qui reviennent aussi bien à l'Équateur, à Kinshasa, dans les Katanga, province orientale, Bandundu, un peu partout.
Merci, nous passons à notre dernier thème de ce soir. Les femmes ont célébré le 8 mars dernier la Journée internationale de la femme, dont le thème national est le progrès pour tous, parité homme-femme dans un Congo cinquantenaire. Lundi 8 mars dernier, le monde a célébré la Journée internationale de la femme. En RDC, le thème national choisi est le progrès pour tous par la parité homme-femme dans un Congo cinquantenaire. Cette année, le gouvernement est déterminé, d'après la ministre des Genres, Familles et Enfants, à apporter des changements significatifs dans le vécu quotidien de la femme congolaise. Mais quel bilan dresser de la condition de la femme congolaise 50 ans après la cession de la RDC à l'indépendance? La ministre Marie-Ange Lukiana répond au micro de Daniel Tambinzoni.
Nous disons que la situation de la femme congolaise, il y a des avancées. Il y a beaucoup d'avancées, regardons les femmes en ce temps. Au niveau de l'éducation, beaucoup plus de femmes ont accédé à l'éducation, 23% de plus. Au niveau de l'emploi, 18% de plus. Au niveau de la culture, au niveau des médias, vous avez des collègues de femmes. Donc la femme a pris les choses à prendre corps sur le plan tant politique, économique et social pour occuper l'espace national, quel que soit. Lors des élections de 2006, les élections démocratiques, 63% des votants réels sur 100 étaient des femmes. Ce sont les mamans qui massivement, majoritairement, ont conféré le pouvoir à tous les gouvernants qui siègent dans les institutions légitimes à tous les niveaux. Depuis 50 ans d'indépendance, on a eu des bandes armées, des chefs de guerre. On n'a jamais entendu une seule bande armée dont le premier chef est une femme. C'est-à-dire que la femme s'est affirmée comme artisan de la paix et artisan pour bâtir le Congo démocratique par les voies républicaines.
Christophe Manoula, je rappelle que vous êtes directeur coordonnateur des canaux Congo Télévision et Radio Liberté à Bumba, à l'Équateur. Et comment cette journée de la femme a été célébrée dans la province de l'Équateur?
La province de l'Équateur a eu le privilège d'accueillir Madame Jeanine Mabunda, ministre au portefeuille, qui a bien voulu qu'il y ait une fille du terroir, de Bumba particulièrement, qui est venue passer cette journée avec le maman de Bumba. Après que le défilé soit fini, elle s'est envolée aussitôt sur Djemena, où elle est allée également partager cette journée avec le maman de Djemena. En fait, je pense que c'est un éveil. Hein. Le maman commence à se réveiller petitement, commence à comprendre la journée. La journée qui est peut-être comprise comme étant aujourd'hui c'est la journée des mamans, elles doivent pas préparer, ce sont les hommes qui doivent préparer à leur place, ceci, cela. Mais moi je pense que c'est peut-être une journée de réflexion pour le maman, pour qu'elles sachent prendre leur place par rapport au pourcentage donné par madame. Ce sont des pourcentages qu'une mère assure toujours pas. Même dans ma province d'origine, les pourcentages sont vraiment, vraiment faibles. Il est très, très important qu'aujourd'hui, qu'on essaie d'abdiquer au mariage précoce, aux histoires de violences sexuelles, qu'on essaie de donner priorité aux dames qui étudient, et à peine terminé, qu'on essaie de les trouver de l'emploi pour une façon de les valoriser. C'est une journée qui est bien passée, et je crois que les mamans sont en train de se regrouper pour essayer de voir ce qu'ils pourront faire demain. Et aussi, nous, les hommes, nous devons également voir aussi ce que nous pouvons faire pour les femmes, plutôt que de les considérer toujours comme des êtres faibles, qui n'ont pas de place. Le temps est révolu de pouvoir considérer que les mamans sont des êtres qui sont faits pour la cuisine ou des machines fabricatrices des enfants. En tout cas, ce sont des êtres comme nous, les hommes, mais on se diffère que par les sexes.
Merci, Martin Goli. Merci, merci Christian Maloula. Marcel Moni, je rappelle que vous êtes éditeur du quotidien La Prospérité, c'est un journal qui paraît ici à Kinshasa. Et 50 ans après l'accession du pays de la RDC à l'indépendance, la femme congolaise semble toujours marginalisée. Hein. Nous avons des chiffres ici, vous savez, dans les gouvernements centrales, le gouvernement Mobutu 2, sur 43 ministres, il n'y a que 5 femmes. Et à l'Assemblée nationale, sur 500 députés, il n'y a que 50 femmes députées. Et au Sénat, sur 108 sénateurs, il n'y a que 6 femmes. Comment pouvez-vous expliquer cela?
Oui, moi, le problème n'est pas un problème tout simplement numérique, Guy. Je considère que la parité est un principe qui est inscrit dans la Constitution de la République. La Constitution qui régit le pays depuis le 18 février 2006. Donc je considère que la parité est un principe qui a été inscrit, mais ce principe n'a pas été suivi de mesures d'application. Et c'est ce qui explique les déficits auxquels nous assistons aujourd'hui, les déficits dans la représentativité ou dans la représentation de la femme. Mais ceci ne veut pas dire que c'est la volonté de l'homme ou des hommes de marginaliser les femmes. Il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. À l'époque, il y avait un credo. J'appelle ça credo parce que sous la Deuxième République, on parlait de l'émancipation de la femme. Et c'est aussi aujourd'hui, est-ce que je peux considérer qu'aujourd'hui, c'est cette émancipation qu'on voudrait aujourd'hui qualifier de parité? Non, je dis que dans la Constitution, la vision est claire. Le constituant a voulu que la femme devienne, aux côtés de l'homme, complémentaire. Complémentaire dans l'idéal de la construction d'un nouvel État, un État où il y a égalité des chances. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'il y a un poste à pouvoir, il ne faut pas que la femme soit éliminée d'office parce qu'elle est femme. Par contre, en faisant prévaloir ses capacités, ses talents, cette femme peut concourir. C'est comme ça que nous avons dans nos rédactions des filles que nous essayons d'encourager. À la Prospérité, par exemple, il y a des filles que j'encourage et très souvent, quand les fatigues m'envoient des étudiants stagiaires sur 10, j'ai au moins 8 ou 6. Alors, il va de soi qu'à la longue, qu'on ait un peu plus de filles à encadrer. Mais ce n'est pas pour autant qu'elles sont nombreuses qu'elles sont qualifiées pour mieux faire que les hommes. Ce n'est pas un problème numérique, c'est ce que je voudrais le montrer. En disant tout simplement que 50 ans après, c'est vrai, on a eu de Justine Mpoyo Katabubu ici, on a entendu parler de Catherine Zouzoua Mbombo, de Sophie Kanda, des grands noms. Aujourd'hui, Lukiana elle-même bat les records de la longévité au gouvernement. Donc, ce sont des femmes d'exception. Et ce genre de femmes sont rares. Et je crois que lorsque le chef de l'État cherche 15 personnes ou cherche 5 personnes, parmi les personnes qu'il cherche, il doit aussi lui-même être un homme genré. Un homme pense qu'il peut accorder le même type de chance aussi bien à la femme qu'à l'homme, selon que le poste à pouvoir peut mériter une contribution de l'une ou de l'autre. Donc, je considère, pour terminer, que ce combat de la femme doit continuer. C'est un combat qui doit continuer, un combat d'affirmation. Les femmes ou la femme doivent s'affirmer, nous montrer qu'elles ont compris que leur contribution vaut pour ce pays.
Merci Giscard Kofema. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef à la télévision Digital Congo, Kinshasa. C'est une télévision qui est émise depuis la ville de Kinshasa. Et, selon la ministre Lukiana, 63% des votants en 2006 étaient des femmes. Comment expliquer le fait que la plupart de ces femmes n'ont pas voté pour les femmes qui étaient candidates à ces élections?
Écoutez, je voudrais d'abord ici saluer le propos tenu par Madame le ministre, des propos qui rentrent pratiquement en contradiction avec ce que les communs de mortels tentent à croire ou ce que certaines femmes tentent de véhiculer jusqu'ici. Madame le Lukiana a dit, je crois qu'elle est la personne la mieux placée parce qu'elle a des chiffres, elle a des indicateurs qui l'ont poussée à déclarer qu'il y a des avancées significatives dans ces domaines. Écoutez, pour répondre à votre question, je voudrais d'abord dire ici qu'il n'y a pas un consensus de marginalisation de la femme. Les élections, c'est un domaine de mérite. C'est un domaine, ce n'est pas une question de sexe ici, ou c'est une question de mérite simplement, c'est par rapport au discours. Si les discours tenus par les femmes n'ont pas convaincu leur père-femme, il est tout à fait normal que les femmes aillent voter pour ceux dont les discours ont rencontré leur assentiment. Donc, c'est un domaine, en fait, de compétition. C'est un domaine... C'est pourquoi moi, j'ai toujours pensé ici que le terme émancipation me paraît le mieux approprié plutôt que parler de la parité qui ne vise qu'une égalité de nombre, sans tenir compte des qualités. Alors, lorsqu'on parle de l'émancipation, on voit qu'il y a un effort que la femme devrait fournir pour être à la hauteur de l'homme et pour mériter, disons, le même égard que l'homme et pour mériter aussi les mêmes responsabilités que l'homme. Et donc, je pense, pour moi, que la journée s'est arrêtée à un simple aspect spectaculaire des corps des femmes et qu'on n'a pas décortiqué les thèmes.
Malheureusement, on n'a pas assez de temps. C'est la fin de cette émission. Guy Manzangou était à la technique, Kamal Kachak à la réalisation, sous la supervision de Martin Sebujangwe et devant ses micros, Guy Maté, merci et bon week-end sur Radio Kapi. Thank you.